Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Bonjour et bienvenue dans la matinale week-end sur Radio J, il est 8h, bon dimanche et bon réveil, nous sommes le 27 juillet 2025, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et tout de suite, le journal de la rédaction avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, un nouveau soldat de Tsahal tué dans la bande de Gaza.
Grièvement blessé, Betzalel Yehoshua Amos Bacher a succombé à ses blessures. Il avait 32 ans, il était originaire d'Avné et Etan. Il servait dans l'unité de génie de la brigade Bismillah. Il avait été blessé le 19 juillet dernier. Il laisse dans le deuil son épouse Mayan et leur fille.
L'armée israélienne fait une pause dans les combats pour permettre les livraisons de l'ONU.
Il y a aussi de nouveaux points de passage pour les colis alimentaires qui vont être ouverts. Tsahal largue également de l'aide sur la bande de Gaza pour la première fois, tout comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Londres se prépare à faire de même, mais selon le chef de l'UNRWA, les parachutages d'aide sont coûteux et inefficaces.
Le terroriste de l'attentat de Kfar Yona arrêté à Pardes Hana.
L'auteur de l'attaque à la voiture Bélier de jeudi, il s'était caché dans un chantier de construction. Il est en garde à vue. La traque a duré 2 jours. Et pour le retrouver, c'est non seulement l'armée mais la police qui ont été mobilisées, mais également des bénévoles. L'attentat de Kfar Yona a fait 10 blessés, dont 8 soldats. Par ailleurs, sur le front nord, les opérations continuent contre le Hezbollah.
Sur le front sud, le Hamas craint la possibilité d'une opération militaire américano-israélienne pour sauver des otages dans la bande de Gaza.
Selon le journal Ashark al-Awsat, le groupe terroriste a mis en place des mesures pour empêcher quiconque d'accéder au lieu où sont détenus les otages. Il y en a encore 50 dans la bande de Gaza, dont 20 vivants. Les terroristes auraient même reçu l'ordre d'exécuter ces captifs encore vivants si Tsahal s'approchait. Face à l'échec du dernier round de discussion pour trouver un accord de cessez-le-feu, les États-Unis et Israël cherchent d'autres options pour récupérer les otages.
Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Selon le message du chef de l'État posté sur X, ils ont évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont lancé hier un nouvel appel à la fin de la guerre. Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, hier sur TF1.
Nous devons d'abord ne pas seulement reconnaître l'État de Palestine seul en France sans effet. Il nous faut embarquer un mouvement plus large et c'est pour cela que cela sera confirmé d'abord par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lundi à la tribune de l'ONU, mais surtout par le président de la République en septembre lors de son Assemblée générale. On a besoin évidemment que cela ne soit pas une initiative franco-française isolée.
Si vous restez seul, ce sera tout de même un échec sur le plan diplomatique.
Il nous faudra... L'objectif est évidemment d'embarquer davantage de nations et de pays dans cette dynamique-là.
Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, de son côté, l'Allemagne a fait savoir que contrairement à la France, elle ne comptait pas reconnaître un État palestinien.
Et puis la Andala a résonné par Tsahal dans la nuit. Comme pour le Madeleine, il y a 6 semaines, il a été intercepté à environ 100 km des côtes.
À son bord, 800 kilos d'aide humanitaire, 21 passagers, dont 6 Français, parmi lesquels les députés LFistes Emma Fourreau et Gabriel Catala. Tous ces passagers ont menacé d'entamer une grève de la faim s'ils ne pouvaient pas atteindre Gaza, ce qui est donc le cas. Le bateau a quitté la Sicile au début du mois. Il est exploité par la fameuse Freedom Flotilla Coalition.
Puis dans l'affaire Vueling et des 44 enfants français juifs débarqués d'un vol à l'aéroport de Valence.
Le ministre des Affaires étrangères a fait part de la vive émotion suscitée par leur expulsion. Jean-Noël Barrot a téléphoné en personne au PDG de la compagnie. Il a demandé à Carolina Martiloni des explications pour déterminer si ces jeunes avaient fait l'objet de discrimination. Le PDG de Vueling a assuré qu'une enquête rigoureuse était en cours. L'un des jeunes qui se trouvait dans l'avion évoque l'un de ses camarades qui a dit un mot en hébreu. Il parlait fort. La suite, donc, il la raconte au micro de BFM TV.
Vraiment, 5 minutes après, on a vu les forces de l'ordre arriver. ont très vite posé la question de la nationalité. Donc la directrice de la colonie leur a parlé en leur disant qu'on était tous français. Et ils ont dit qu'ils avaient été mis au courant que quoi certains étaient de la société israélienne. Juste après, on est sorti de l'avion, on a souhaité placer dans le couloir. On a entendu des cris et on a appris que notre directrice de colonie, du coup, s'était faite plaquer au sol et menottée parce qu'elle avait contesté le fait de prendre les téléphones pour les fouiller.
L'organisation de la colonie, le club Kinneret, va porter plainte. Et puis pour finir, ce message géant Stop Génocide à Gaza. Il a été projeté hier soir sur la Vasque Olympique à Paris, une initiative revendiquée par Amnesty International à l'occasion du premier anniversaire des JO de Paris.
Merci Vassoto, on vous retrouve tout au long de cette matinale. 8h et quasiment 6 minutes sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. L'heure de la météo de ce dimanche 27 juillet. Aujourd'hui, le temps à Paris sera très nuageux avec des averses possibles qui pourraient localement prendre un caractère orageux. En cours de journée, l'incertitude persistera et les températures varieront entre 18 et 23 degrés. Il est conseillé de garder un parapluie à portée de main car des éclaircies pourraient se faire rares. Sur la côte normande, à Deauville et Trouville-sur-Mer, une amélioration est attendue au fil de la journée. Le ciel devrait se dégager, offrant de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 18 et 20 degrés, avec des valeurs proches de la normale pour la saison. Profitez de cette amélioration pour une promenade en bord de mer. En Israël, le ciel est bleu. Il fera beau et chaud toute la journée sur l'ensemble du pays, mais le ciel se couvrira dans la soirée dans la capitale Jérusalem. Attention, il faut s'attendre à des rafales de vent de plus en plus soutenues et les températures seront comprises entre 24 et 35 degrés au cours de la journée. Il fera très chaud dans l'après-midi, de la chaleur partout ailleurs. Il fera 33 degrés à Tel Aviv et à Haïfa et 43 degrés à Eilat.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza. Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J.
Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Kevin Derbloom. Eva Soto. Le 6-9. Radio J.
Radio J.
6h, 8 minutes sur l'antenne de Radio J. L'heure de retrouver, comme chaque dimanche, la chronique sport d'Anna Fellous. Bonjour Anna.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, alors c'est le tremblement de terre, Anna, cette semaine dans le monde du judo israélien.
Oui, bien qu'en réalité, le tremblement de terre dure depuis le mois de mai. C'est le mois où Renz Nadja, l'entraîneur de l'équipe nationale de judo, a démissionné avec pertes et fracas. Il venait tout juste d'allumer une torche lors des célébrations de Yom Hatzmaout.
Il faisait un peu partie des meubles, tellement on a la sensation qu'il a toujours été là en fait.
Et il a toujours été là. Maurice Madja, son père, qui a échappé à la persécution nazie en Tunisie, était coach de judo et un des fondateurs du judo en tant que sport en Israël. C'est donc tout à fait normal que Oren, son fils, à son tour, rentre dans le monde du judo sous son égide. Et avec quel succès ! C'est le premier sportif israélien, tenez-vous bien, à remporter une médaille olympique. Elle est en bronze en 1992 aux Jeux Olympiques de Barcelone. Avec la manière d'ailleurs, beaucoup de hippon, le mouvement gagnant par excellence du sport, mais aussi en gagnant 5 matchs en totalisant 5 minutes 45. Pour vous donner une idée, un match de judo à lui tout seul dure 5 minutes.
Donc ah oui, record. Ah oui, quand même, effectivement, c'est une vraie star de la discipline, quoi.
Oui, oui, il ne s'est pas arrêté là. Il devient en 1995 le sportif de l'année, après encore une belle année sur le plan international.
Ouais, nous, on le connaît surtout en tant que coach et on a en mémoire l'image de Peter Palchik qui tombe à genoux en pleurs, tourné vers lui lorsqu'il remporte sa médaille olympique à Paris.
Oui, cette image représente l'amour que les judokas israéliens ont envers lui et le sport en général. Et même en dehors du sport, Renz Madja est une figure très populaire du monde israélien. Depuis 2010, où il coache les équipes israéliennes de judo, il est celui qui a mené Ori Sasson à la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, celui qui a mené Segi Mouki au titre de champion du monde en 2019, et c'est celui, en effet, qui a mené Peter Palchik à la médaille de bronze à Paris 2024. tu parles d'un palmarès, mais c'est vrai que l'image de Orhan Smadja, ancrée dans ma tête, c'est celle avec Peter Palchik en larmes devant lui. Lorsqu'il s'est précipité dans ses bras, Peter lui a glissé à l'oreille qu'il avait gagné pour Omer, le fils de Orhan, tué à Gaza à peine un mois avant les Jeux Olympiques.
Et la famille Smadja, c'est l'histoire du pays, mais pas seulement.
Oui, Orhan Smadja représente Israël, la réussite sportive, oui, mais pas seulement. Il représente la détermination, la résilience, l'humanité, la force. Et c'est pour ça qu'il a été invité à allumer une des torches lors de Yom HaTzmaout. Et c'est pour ça qu'il est autant apprécié de la société israélienne.
Malgré tout, il est au cœur de la polémique aujourd'hui.
Oui, il a choisi d'expliquer pourquoi il a décidé de quitter son poste de coach national de judo et il pointe directement la responsabilité de la fédération. Il les accuse d'avoir sorti un article à charge contre lui le jour de Yom HaZikaron, le jour du souvenir, alors qu'il se recueillait sur la tombe de son fils. Un article qui remet en question ses performances, son avenir en tant que coach. Il accuse aussi la fédération d'avoir éloigné tout son entourage, de les avoir mutés, renvoyés pour l'isoler et le délégitimiser.
Il est vrai que ses résultats ces derniers temps étaient plutôt décevants.
Les championnats d'Europe en avril-mai dernier au Monténégro n'ont pas rapporté les résultats attendus. Une seule médaille, c'est le pire résultat de l'histoire du judo israélien, tout simplement. Ça fait 4 ans que dans les tournois internationaux, hors Jeux Olympiques, que les résultats ne sont pas ceux attendus. Donc les questions autour du coaching sont légitimes. Le point de Orhan Smadja est que la fédération aurait dû le remercier directement plutôt que d'essayer de le discréditer via les médias. C'est donc par ce biais qu'aujourd'hui il s'exprime et demande du changement également au sein de la fédération. Fédération qui s'est défendue via communiqué. Bref, c'est l'orage dans le monde du judo israélien. Mais une chose est sûre, c'est que Orhan Smadja, le prodige du judo, a apporté un rayonnement et a donné le sourire à un pays meurtri. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a choisi de venir à Paris alors qu'il venait de perdre son fils. Porter l'espoir d'apporter une bonne nouvelle au pays, de donner le sourire. Et ça a été unanime, des judokas jusqu'à toutes les sphères de la population. Tous ont remercié le coach d'avoir été là et d'avoir représenté le pays. Peter Palchik a même dit sur lui, « Orhan nous a autorisé à croire que tout est possible. Le premier jour où il m'a coaché, il m'a dit que je gagnerais une médaille olympique. » La pression, hein, dès qu'il était petit comme ça. Et même dans la souffrance et même dans la perte de son fils, il est resté aux côtés de son équipe. Et il restera toujours l'enfant prodige du judo, aimé de tous. Du côté de la fédération, on attend encore l'annonce de celui qui reprendra l'équipe.
On attend donc avec ça avec impatience. Anna, sûrement avant la reprise de la saison de judo pour l'année prochaine. Rapidement, faisons un petit tour des autres sports, peut-être, Anna Fellouz.
Oui, on en reparlera très en détail et d'ailleurs beaucoup plus en détail. Mais les équipes de basket qui seront en Euroleague l'année prochaine sont en train de se renforcer. L'Hapoël Tel Aviv et son concurrent, son plus grand concurrent d'ailleurs de l'histoire, le Maccabi Tel Aviv, recrutent de grands noms européens et de NBA. Vassili Micic sera à l'Hapoël l'année prochaine et Lonnie Walker sera au Maccabi. On espère vraiment que les résultats suivront. On en reparlera avant la reprise. Quand les équipes auront terminé leur recrutement, ce sera fin septembre pour une reprise juste avant le mois d'octobre, dans les derniers jours de septembre. Donc on a hâte de revoir du basket israélien et du sport tout court finalement, ou du basket tout court. Ça nous manque un petit peu.
Oui, effectivement, nous aussi on a hâte. Merci Anna Fellouz et à dimanche prochain. La chronique sport, je le rappelle, est à retrouver sur radioj.fr. 8h13 sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. C'était la chronique sport d'Anna Fellouz qu'on retrouve tous les dimanches. Ce qui vous attend, eh bien, dans ce prochain quart d'heure, sur l'antenne de Radio J, eh bien, la chronique de Vladimir Fedorovski. Un jour, une mitva, bien évidemment, avec le rabbe Chaim Nissenbaum, et Micro-Sion avec Xavier Nataf. Et le rappel des titres dans quelques instants avec Eva Soto.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Journée. écoutez Radio J.
Radio J. Kevin Derbloom. Eva Soto. Le 6-9. Radio J.
8h15 sur l'antenne de Radio J, l'heure du rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité, Tsahal fait une pause dans les combats pour permettre les livraisons de l'ONU dans la bande de Gaza. Tsahal largue aussi de l'aide pour la première fois sur ce territoire, tout comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Londres se prépare à faire de même. Sur le front sud, le Hamas craint la possibilité d'une opération militaire israélo-américaine pour sauver les otages dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste aurait mis en place des mesures pour empêcher quiconque d'accéder au lieu où sont détenus les otages. Un nouveau soldat de Tsahal tué dans la bande de Gaza, grièvement blessé le 19 juillet dernier. Bezalel Yehoshua Mosbacher a succombé à ses blessures. Il avait 32 ans. Affaire Vueling et des 44 enfants français juifs débarqués d'un vol à l'aéroport de Valence. Le ministre des Affaires étrangères a fait part de la vive émotion suscitée par leur expulsion. Jean-Noël Barrot a téléphoné en personne à la PDG de Vueling.
Merci Eva Soto, on vous retrouve tout au long de cette matinale et comme tous les matins, il nous parle d'Israël. C'est la chronique Micro-Sion avec Xavier Nataf.
Kevin Derbloom. Eva Soto. Le 6-9. Radio J.
Radio J.
Sète a été le théâtre d'un événement marquant de l'histoire du sionisme et des migrations juives après la Seconde Guerre mondiale. C'est depuis ce port méditerranéen, entre Sète et Narbonne dans le sud de la France, que dans la nuit du 10 au 11 juillet 1947, l'Exodus a pris la mer, avec à son bord plus de 4500 survivants de la Shoah, animés par le même rêve, rejoindre la Palestine mandataire pour y construire une nouvelle vie. Dans l'immédiate après-guerre, la France est un pays clé dans les mouvements migratoires des réfugiés juifs désireux de rallier la Palestine sous mandat britannique. Sète, avec son port discret et moins surveillé que les autres, devient un point de départ stratégique. C'est là qu'est affrété l'Exodus, un ancien ferry américain transformé en bateau d'immigrants par la Haganah, l'organisation clandestine juive préparant la création de l'État d'Israël. L'Exodus appareille en secret, chargé de passagers dans des conditions extrêmement précaires. Peu après son départ, il est intercepté par la marine britannique en haute mer. S'ensuit un affrontement violent, causant la mort de 3 passagers et faisant plusieurs blessés. Les réfugiés sont finalement ramenés en Europe et internés dans des camps en Allemagne, suscitant une vive émotion internationale et renforçant le soutien à la cause sioniste. Aujourd'hui, la ville de Sète garde en mémoire cet épisode historique. Plusieurs commémorations ont eu lieu pour rappeler le rôle de ce port dans cette odyssée tragique et héroïque. Ce départ depuis Sète symbolise à la fois l'aspiration des réfugiés juifs à un avenir meilleur et les difficultés qu'ils ont rencontrées avant la proclamation de l'État d'Israël en 1948.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation sioniste mondiale.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Tout de suite sur Radio J, on retrouve le rabbin Chaim Nissenbaum pour un jour, une mitzvah. Bonjour Rav.
Bonjour à tous. C'est encore l'autel du Temple qui fera l'objet de notre réflexion, ou plutôt la pente qui permettait d'y accéder. Cela peut sembler étonnant. Pourquoi pas tout simplement, s'il faut monter jusqu'en haut de l'autel, qui faisait 3 mètres de hauteur, ne pas construire, de préférence à une pente, des escaliers? La réponse en est simple, et notre grand exégète, Rashi, nous la rapporte. Il nous dit qu'en cette occasion, la Torah s'est souciée de pudeur. En effet, nous dit-on, le Kohen, le prêtre, qui pour accomplir sa tâche devait monter sur l'autel, aurait dû, gravissant des marches, écarter les jambes plus que de coutume. La Torah, par respect pour le lieu au caractère saint, a préféré lui éviter cela et a demandé la construction en cet endroit d'une pente dont la montée ne demande pas le même effort que des marches. Nous trouvons là devant un thème qui aujourd'hui semble bien dépassé, qui se soucie encore de pudeur, et à un degré tel que le simple fait d'écarter un peu trop les jambes, alors même que le Cohen est revêtu de ses vêtements sacerdotaux, est perçu comme un manquement à cette règle de vie. C'est peut-être précisément cela qu'il faut retenir, si notre tradition a imposé la construction de cette pente à cause d'un principe de pudeur. C'est que la notion est d'importance, qu'à l'heure même de ces grandes chaleurs où dans le monde d'aujourd'hui on a appris aux hommes et aux femmes qu'il faut impérativement se retrouver sur des plages ou avoir toutes les attitudes qu'on connaît, il est bon de se souvenir de tout cela. Tant de respect manifesté dans le temple pour de simples pierres, tant de pudeur. Réfléchissons-y. Bonne journée à tous.
Bonne journée à vous aussi, Rabbin Nissenbaum. On vous retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, on retrouve Vladimir Felorovski.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Notre rendez-vous avec l'histoire chaque dimanche sur Radio J, c'est aussi notre rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Vladimir Fedorovski, bonjour.
Quel plaisir d'être avec vous le dimanche ensoleillé. Je suis ravi d'être avec vous et je suis ravi de retrouver Eva en pleine forme.
Et votre dernier ouvrage, je le rappelle, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant. Alors, nous explorons avec vous dans cette série les liens parfois tourmentés entre la France, l'Occident et la Russie. Aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler de Pierre le Grand. Pierre le Grand, le grand rapprochement. En quoi Pierre le Grand a-t-il œuvré à ce grand rapprochement ?
Quel tsar ! C'est mon tsar préféré. Il était occidentaliste par excellence. Et puis, il me donne un cadeau, puisqu'il y a deux personnages qui sont... qui détermine le destin russe. Il y a le personnage qui est apparu dans mon dernier livre, Ivan le Terrible, qui pensait que l'avenir russe est asiatique. Et Pierre le Grand, il pensait toujours que l'avenir de la Russie, c'est l'Europe. Et grâce à Pierre le Grand, elle est devenue européenne. Qui peut nier aujourd'hui que Tolstoï, Dostoïevski ou encore Tchekhov font partie du patrimoine européen, Tchaïkovski, le compositeur par excellence. Et je dois vous dire, tout est lié avec Pierre le Grand. Pierre le Grand, qui arrive presque par hasard au sommet du pouvoir, mais c'était un tsar qui a réfléchi depuis sa jeunesse, elle était marquée par ses liens avec l'Occident. Il y avait un quartier...
On dit de lui que c'est le tsar le plus francophile. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça de lui et pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans son parcours, a fait de lui un tsar francophile ? Qu'est-ce qu'il a accroché à la France ?
La France la séduisait par sa civilisation. Et puis, il y avait, dans la démarche de Pierre le Grand, un côté esthétique. Il adorait le goût français. Il adorait l'histoire française, il la connaissait très bien, il parlait français très bien, il rêvait de voyager en France dès qu'il arrive. Il y avait à la fin encore du XVIIe siècle, il a fait un grand voyage partout, il était d'ailleurs très bien accueilli en Hollande, il a travaillé comme un simple ouvrier, il a appris, imaginez-vous bien, 24 métiers de marin. Là-bas, tout le monde regardait ce géant de 2 mètres. Travaillait comme un simple ouvrier, mais il rêvait de la France.
Il fait le voyage
plus tard, mais il faut dire qu'il a attendu pour faire le voyage, parce que Louis XIV, déjà, vous savez, en France, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est une tendance personnifié par les grands diplomates, par Voltaire autrefois, mais surtout au XXe siècle par Charles de Gaulle. Il faut dire que ces gens-là, ils pensaient toujours que sur le continent, il n'y a pas d'intérêt contradictoire entre la France et la Russie. Ils sont complémentaires et ils peuvent parfaitement être alliés sur ce plan-là. Et il y a une tendance qui disait qu'il faut alliance avec le monde islamique, notamment encore Louis XIV, il pensait de l'alliance avec l'Empire ottoman contre la Russie, puisque la Russie est trop grande. Mais bref, ça c'est la première étape. Pierre le Grand, il va venir en 1717. En France, il fait un voyage mémorable, qui est décrit parfaitement par Saint-Simon. Il faut dire que il adorait j'ai dit esthétique française, il engage plusieurs grands Français pour construire Saint-Pétersbourg. Symbole de sa démarche, c'est la construction de cette ville extraordinaire de Saint-Pétersbourg. C'est une des meilleures architectures qui existent dans le monde. Et dans cette architecture, c'est un mélange des styles assez étonnant. Ça aurait pu produire kitsch et ça a produit un miracle architectural. Et là-dedans, le classicisme français joue un rôle. Il engage notamment, il y a un célèbre architecte, Leblon, qu'il voulait carrément refaire la ville idéale à partir de Leblon. Leblon est allé là-bas. Il a voulu faire table rase de tout et reconstruire encore une fois. Pierre le Grand l'a calmé, mais il y a un symbole de cette alliance. Il y a un reflet heureux, extraordinaire. C'est une ville près de Saint-Pétersbourg. Ça s'appelle Peterhof, qui était inspiré de Versailles d'une manière directe. Et jusqu'à l'heure actuelle, les fontaines de Pétersbourg construites par Leblon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, il y a les alliances, par le mariage interposé. Et ça, Pierre le Grand, il a eu une histoire, il a eu la vie assez tourmentée. Sa deuxième femme, c'était une simple servante illettrée qui est devenue une des plus grandes tsarines. Et avec cette servante, il a eu sa vie préférée. Il s'appelait Elisabeth. Dans notre vie, elle va jouer un rôle essentiel. Et Pierre le Grand rêvait de la marier, imaginez-vous bien, à Louis XV. Il a vu Louis XV enfant, il l'a même pris dans ses bras, ce géant, il l'a jeté.
Le but du mariage étant bien évidemment de lier la Russie et la France.
Alors, la Russie, l'Europe et la France à jamais. Il y avait deux tentatives de mariage, je vais vous raconter plus tard, il y avait Napoléon aussi.
Pour Pierre le Grand, en quoi la France finalement peut être l'incarnation de l'Europe ou la tête de pont de l'Europe, puisque quand vous en parlez, c'est un peu comme ça que vous le décrivez.
Absolument. Il pensait que les alliances entre la France et la Russie sont profitables pour les deux pays. Il n'y a pas d'intérêt. Il était prémonitoire sur ce plan-là. Il n'y a pas d'intérêt contradictoire. Et puis, j'ai souvent parlé de ça avec quelqu'un qui était mon grand ami, Chirac. Il disait que l'avenir de l'Europe, c'est trois piliers. C'est la technologie allemande, c'est la civilisation française et c'est les richesses russes à la fois intellectuelles et les richesses de sous-sol. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Dans la tête de Pierre le Grand, c'était déjà ça. Vous comprenez, ça s'est entré d'une manière très bizarre. Il y avait un quartier où je suis né d'ailleurs, à Saint-Pétersbourg, à Moscou. C'est un quartier des étrangers, c'est un quartier pittoresque avec les couleurs assez étonnantes, le jaune fuchsia sur le toile de fond des neiges immaculées de la Russie, c'est extraordinaire, il y a les vestiges de ça jusqu'à l'heure actuelle. Et quand il est allé dans ce quartier, il a dit « je voudrais être comme en Europe » et il a fait venir beaucoup de gens, Pierre le Grand, mais il n'a pas vraiment réussi parce qu'il y avait une réticence française. Le concept français, il est marqué jusqu'à aujourd'hui. Faire l'alliance à la Russie, il faut faire c'est trop aléatoire, il faut faire une autre alliance, et si c'est possible, même être hostile à la Russie, ça a duré, et finalement, je dois vous dire que après, le voyage n'a pas vraiment réussi.
La première... Hostile ou méfiant?
Les deux, hostile, méfiant et ignorant. Parce que vous comprenez, jusqu'à aujourd'hui, moi je ne cesse pas à le dire, moi je fais 6 livres sur Poutine, et on va en parler un tout petit peu, mais on construit un personnage qui est un personnage prédisposé. Je ne voudrais pas cracher dans la soupe à propos de médias, mais ils ont raconté tellement de bêtises à propos de ça ici, que je n'ose pas dire, rien que 15 cancers malheureux, qu'on a raconté à certaines chaînes de télévision à propos de Poutine. Bref, ignorance du désir et ignorance du désir de la Russie d'avoir des bons rapports avec l'Europe.
Bah, là, pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qui est affiché. Ça veut pas dire que le désir n'existe pas ou n'a pas existé, mais en tout cas, c'est pas ce qui est affiché. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous-même, l'alliance avec les BRICS, le fait de se tourner vers l'Asie, actuellement, il y a une redistribution des cartes, on peut pas la nier.
Pas la redistribution de cartes, mais vous connaissez ma position, je disais toujours que la plus grande bêtise, plus que les sanctions, plus que n'importe quoi à propos des 15 cancers de Poutine, la plus grande erreur de l'Occident, c'est de jeter la Russie pendant ces 3 ans dans les bras de la Chine et de créer l'alliance.
Bien sûr, on va en reparler, bien évidemment. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, paru aux éditions Ballant.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
Shavuatov, bonjour et bienvenue sur Radio J. 660e jour de guerre, toujours 50 otages retenus dans la bande de Gaza. On est ensemble jusqu'à 9h, nous sommes le dimanche 27 juillet 2025. Tout de suite, le journal avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, un nouveau soldat de Tzal tué dans la bande de Gaza.
Grièvement blessé, Bezalel Yehoshua Mosbacher a succombé à ses blessures. Il avait 32 ans, il était originaire d'Avnei et Tan. Il servait dans l'unité de génie de la brigade Bismillah. Il avait été blessé le 19 juillet dernier. Il laisse dans le deuil son épouse, Mayan, et leur fille.
L'armée israélienne fait une pause dans les combats pour permettre les livraisons de l'ONU.
L'armée israélienne applique un cessez-le-feu humanitaire à partir de ce matin et jusqu'à ce soir dans plusieurs centres de population de Gaza, y compris dans la bande de Gaza du Nord. C'est ce qu'a déclaré un responsable israélien. Le but, c'est bien sûr de permettre l'acheminement d'aide humanitaire. Ça largue également cette aide à Gaza pour la première fois. C'est aussi le cas de l'Arabie Saoudite et Londres se prépare à faire de même. Mais selon le chef de l'UNRWA, les parachutages d'aide sont coûteux et inefficaces.
Le terroriste de l'attentat de Kfar Yonah arrêté à Pardes Hana.
L'auteur de l'attaque à la voiture Bélier de jeudi, il s'était caché dans un chantier de construction. Il est en garde à vue. La traque a duré 2 jours. Et pour le retrouver, c'est non seulement l'armée et la police qui ont été mobilisés, mais également des bénévoles. L'attentat de Kfar Yonah a fait 10 blessés, dont 8 soldats. Par ailleurs, sur le front nord, les opérations contre le Hezbollah continuent.
Et sur le front sud, le Hamas craint la possibilité d'une opération militaire américano-israélienne pour sauver des otages dans la bande de Gaza.
Selon le journal Ashark al-Awsat, le groupe terroriste a mis en place des mesures pour empêcher quiconque d'accéder au lieu où sont détenus les otages. Il y en a encore 50, dont 20 vivants. Les terroristes auraient même reçu l'ordre d'exécuter les captifs encore vivants si Tzal s'approchait. Face à l'échec du dernier round de discussion pour trouver un accord de cessez-le-feu, les États-Unis et Israël cherchent d'autres options afin de récupérer les otages.
Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Selon le message du chef de l'État posté sur X, ils ont évoqué la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont lancé hier un nouvel appel à la fin de la guerre. Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger sur TF1.
Le 8h33 minutes, l'heure de la météo. Aujourd'hui, le temps à Paris sera très nuageux avec des averses possibles qui pourraient localement prendre un caractère orageux. En cours de journée, l'incertitude persistera et les températures varieront entre 18 et 23 degrés. Il est conseillé de garder un parapluie à portée de main car des éclaircies pourraient se faire rares. Sur la côte normande, à Deauville et Trouville-sur-Mer, une amélioration est attendue. Au fil de la journée, le ciel devrait se dégager, offrant de belles éclaircies. Les températures seront comprises entre 18 et 20 degrés avec des valeurs proches de la normale pour la saison. Profitez de cette amélioration pour une promenade en bord de mer, en Israël. Le ciel est bleu, il fera beau et chaud toute la journée sur l'ensemble du pays, mais le ciel se couvrira dans la soirée. Dans la capitale Jérusalem, attention, il faut s'attendre à des rafales de vent de plus en plus soutenues. Les températures seront comprises entre 24 et 35 degrés au cours de la journée. Il fera très chaud dans l'après-midi, de la chaleur partout ailleurs. Il fera 33 degrés à Tel Aviv et à Haïfa, et ainsi que 43 degrés à Eilat.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
8h34 minutes sur l'antenne de Radio J. On va faire un point sur ce qui vous attend avant la fin de ce petit morning. Eh bien, en fin d'émission, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique C'est bon pour la santé du docteur Serge Raphaël. Et puis, il y aura Nonobstant avec Xavier Nataf qui nous parlera aujourd'hui de la BD Le cas David Zimmerman. Et puis, dans un instant, notre invité. Tout de suite, mais oui, on nous le dit, ça y est, c'est prêt. Tout de suite, l'invité de la rédaction, Éric Danone, ancien ambassadeur de France en Israël, à votre micro, Eva Soto.
Éric Danone, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors, l'impasse diplomatique, elle y est, concernant Israël et les Palestiniens. Et puis, il y a aussi le désastre humanitaire dans la bande de Gaza. En quoi reconnaître un État de Palestine pour la France, ça permettrait de régler ces deux problèmes.
Ça ne permet pas de régler ces deux problèmes. L'idée du président de la République, c'est de déclencher une dynamique de reconnaissance de la Palestine et d'aller vers la solution à deux États.
C'est-à-dire qu'il voudrait qu'il y ait d'autres pays qui le suivent, c'est ça ? Est-ce que ça peut arriver ?
Alors, on va voir aujourd'hui et demain, puisqu'il y a une réunion à New York en ce sens, où la France va essayer de convaincre un certain nombre de partenaires de reconnaître l'État palestinien, surtout, et d'autres de reconnaître Israël, ce qui paraît bien compliqué. Du côté de la reconnaissance de l'État palestinien, il faudra surveiller deux pays clés dans cette affaire, que sont la Grande-Bretagne et le Canada. La Grande-Bretagne est très très réticente. Si on ne met pas des conditionnalités fortes à la reconnaissance d'un État palestinien, le Canadien est un petit peu plus allant, mais rien n'est gagné et on va voir ce qui se passe aujourd'hui et demain à New York.
Justement, effectivement, c'est à suivre ce qui va se passer aujourd'hui et demain à New York. Israël a accusé la France de faire le jeu du Hamas et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dit que c'était pas du tout une prime au Hamas parce que, dit-il, le Hamas veut la destruction d'Israël et pas un État palestinien. Il a raison ou pas, Jean-Noël Barrot ?
Non, il se trompe. Et avec une erreur conceptuelle forte. C'est le fait de confondre un État, la reconnaissance d'un État palestinien, non pas par la France, qui ne compte pas beaucoup, mais par l'ensemble de la communauté internationale, la reconnaissance d'un État palestinien est la solution à deux États. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il y a deux catégories de Palestiniens. Tous veulent un État palestinien. Mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui veulent un État palestinien pour vivre en bonne intelligence avec Israël, et il y a ceux qui veulent un État palestinien comme première étape d'une reconquête de l'ensemble du territoire de l'ex-Palestine mandataire hors Jordanie, c'est-à-dire la disparition d'Israël. Et lorsque le président de la République est félicité par le Hamas parce que la France va reconnaître, c'est pas du tout parce que le Hamas souhaite un territoire palestinien qui vive en paix sagement à côté d'Israël. C'est parce que pour le Hamas, c'est un élément supplémentaire dans la lutte contre Israël. Il y a donc une confusion entre reconnaissance de la Palestine et solution à deux États.
Éric Danon, quelles conséquences ça peut avoir que la France reconnaisse un État palestinien ? Est-ce que, parce qu'après tout, il y a déjà plus de 145 pays dans le monde qui reconnaissent un État palestinien. Donc, la France, ça change quoi ? Ça change quoi ?
Alors, d'un point de vue symbolique, ça dépend combien de pays suivent cette initiative. Si en septembre prochain, puisqu'il va y avoir des négociations entre aujourd'hui à New York jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, troisième semaine de septembre prochain, soit la France est suivie par des pays, y compris par exemple la Grande-Bretagne et le Canada. Alors, ça a une portée symbolique forte, bien entendu. S'il y a 10 pays qui suivent, c'est important. En revanche, si la France n'est suivie par personne, alors ça veut dire que ce n'était pas le moment ou pas la bonne idée. On verra bien ce qu'il en est. Ça, c'est un certain type de conséquences. L'autre conséquence pour la France, parce que vous devez regarder toute initiative française, vous devez la juger avec deux critères. Est-ce que ça favorise la paix ? Est-ce que c'est bon pour les intérêts de la France ? Là, on verra bien, mais on ne voit pas à ce stade en quoi ça favorise les intérêts français, et on ne voit pas que ça aille dans le sens de la paix.
Pourquoi ça ne va pas dans le sens de la paix ? Par exemple, il y a certains de vos confrères ou de vos ex-confrères, Eli Barnavi, qui estiment que reconnaître un État palestinien, ça permettrait de faciliter les négociations, parce que son argumentation, c'est de dire que ça mettrait Israël et un État palestinien quasi à égalité, et ce serait plus facile pour négocier.
Il faudrait pour cela que cet État palestinien soit reconnu au niveau international par l'ONU. Or, c'est pas parce que la France reconnaît la Palestine que l'ONU reconnaît la Palestine comme étant un État de plein exercice. Il faut une procédure très particulière. Pour reconnaître de la part de la France, il suffit d'une déclaration du président de la République. Pour reconnaître au niveau des Nations Unies, vous devez avoir une recommandation du Conseil de sécurité suivie d'un vote de l'Assemblée générale. Il y a déjà eu le vote de l'Assemblée générale, mais pas la recommandation du Conseil de sécurité qui est systématiquement bloquée par les Américains. Donc, à ce stade, on est dans de l'ordre du symbolique. Les symboles sont importants au Moyen-Orient, mais lorsqu'on voit l'état de la guerre aujourd'hui, c'est pas la symbolique qui change grand-chose. Je constate que...
La France a lâché Israël, d'après vous ? Israël, d'après vous ?
Non, mais je pense que les conséquences de cette déclaration et cette reconnaissance en septembre prochain vont affecter considérablement et durablement la relation franco-israélienne. C'est pas tellement la question du lâchage, c'est la question de la coopération. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour s'en remettre. Je pense qu'il va y avoir une baisse considérable de la coopération militaire, ce qui est dommage aussi pour nous. Je pense qu'il va y avoir une baisse de la coopération dans le domaine du renseignement, ce qui sera plutôt dommageable pour nous. Je pense qu'il va y avoir une baisse de la coopération dans le domaine commercial, culturel, universitaire, et tout ça est très dommageable. C'est pas un lâchage.
Pourquoi ?
C'est juste un affaissement de la relation franco-israélienne qui va prendre du temps pour s'en remettre.
Alors pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron ?
Parce que il se dit que il faut. Il faut essayer de faire quelque chose en réaction à quelque chose qu'il ne supporte pas, qui est le fait que Netanyahou a toutes les cartes en main, qu'il fait ce qu'il veut et qu'il est insensible aux pressions. Et c'est très curieux, mais pas, la réaction est une réaction de frustration devant cet état de fait. Il n'est pas le premier chef d'État français à être frustré par le fait qu'Israël n'écoute pas ni la France ni personne. Netanyahou n'écoute aucune puissance, même pas d'ailleurs les États-Unis, même s'il y a une certaine dépendance militaire. Mais c'est une situation qui est très difficile à accepter depuis d'ailleurs le général de Gaulle. Mais tous les chefs d'État français sont passés par cette phase d'exaspération et donc ils lancent ceci pour et puis parce qu'il y a des échéances aussi à venir qu'il n'est pas sûr de traverser sereinement. À partir de là, il fait beaucoup de en même temps avant pour essayer de calmer le jeu en France même. Et d'un côté, je laisse partir Georges Ibrahim Abdallah, et puis pour compenser de l'autre côté, je fais une journée annuelle de commémoration pour Alfred Dreyfus. Tout ça, c'est du en même temps très classique. Et là, avec une initiative qu'il souhaite disruptive, qu'il est symboliquement, mais qui, dans le monde réel, pourrait-on dire, n'a pas à ce stade d'impact.
Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci.
8h45 sur l'antenne de Radio J, l'heure de votre chronique nonobstant avec Xavier Nataf. Aujourd'hui, ce sera sur la géniale BD, le cas Zimmermann. Bonjour Xavier.
Bonjour Kevin et bonjour à tous. Gros coup de cœur cette semaine. Pour leur première collaboration en bande dessinée, les frères Harari, Arthur, le scénariste oscarisé d'Anatomie d'une chute, et son frère, Lucas, l'auteur de nombreuses bandes dessinées, signent le cas David Zimmermann aux éditions Sarbacane, un thriller plus que troublant. L'histoire se passe à Paris de nos jours. David Zimmermann, la trentaine, n'en finit pas de rester au bord de sa vie. Il est photographe, mais presque personne ne le sait, cantonné au mariage et au bar mitzvah. Ce soir de 31 décembre, il se laisse embarquer dans une grosse fête par son unique ami Harry, aussi exubérant que lui est asocial. Au milieu de la foule, son regard est aimanté par celui d'une jeune femme brune énigmatique qu'il ne peut s'empêcher de suivre. Au cœur de la nuit, sa vie bascule, David se réveille dans le corps de l'inconnu. En une nuit, son enveloppe corporelle a changé. Il n'est plus lui, mais cette jeune femme aux cheveux noirs. Une nuit passe et au réveil, il est toujours elle.
Ok, calme, calme, on panique pas. Ça peut pas être vrai, c'est une alu. L'alcool, la pilule de Harry, le mélange, la gueule de bois, la descente. Je me suis cogné la tête. J'ai tellement mal au crâne. Faut que je dorme. Ou alors je dors déjà. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller.
Comment peut-on changer de corps en une nuit ? Qui est cette jeune femme dont il a pris l'apparence ? David va chercher encore et encore jusqu'à trouver un fil. Elle était serveuse à un mariage dont on l'avait chargée de faire des photos. Il faut encore trouver son nom, Rachel Bloom. Il trouve son appartement, mais il est vide.
Je récapitule. L'appart est vide et personne ne semble être venu depuis un moment. Sur le lit, un sac de voyage ouvert. À l'intérieur, des fringues, mais aussi un passeport allemand au nom de Bloom. Son vrai nom donc. Et un billet de train aller-retour Paris-Mannheim. J'ai regardé dans le dico. C'est une petite ville pas loin de la frontière côté allemand. En date du 23 décembre. Retour le 2 janvier.
Avec le cas David Zimmermann, Lucas et Arthur Harari tissent une toile d'araignée à travers cette histoire folle. Dans un univers réaliste, il place l'élément fantastique qui déclenche l'intrigue et la réflexion. Qui sommes-nous ? Comment nous définissons-nous ? Par notre genre, notre identité, notre religion, notre héritage familial ? Dans ce très beau livre de 368 pages, on a plaisir à retrouver le travail graphique de Lucas Harari. L'impact de l'architecture, des cases silencieuses, les éléments de la vie quotidienne figés, exposés. Le genre fantastique est avant tout un prétexte à mener une interrogation profonde sur l'identité, notamment la judéité, qui ne sera pas sans un drame profond.
Tu vois cette boutique ? À chaque fois que je passe devant, je pense à ma mère. Son père était fourreur. Il avait appris le métier en Pologne avant la guerre. Il a perdu sa première femme et son fils, je sais plus dans quel camp. Il a rencontré ma grand-mère à Paris après la guerre.
Ma mère est née peu de temps après.
Ici, impossible de ne pas penser à Kafka tout au long de ce calvaire salvateur, à la fois irréel et lucide. Il est impossible de lâcher l'ouvrage avant la fin, jusqu'à ce final surprenant. Changer de peau, recommencer à zéro, renouer, réparer, c'est ce que raconte le cas David Zimmerman, un roman graphique signé à quatre mains par deux frères, Lucas et Arthur Harari, aux éditions Sarbacane.
C'était votre chronique non-obstant avec Xavier Nataf qu'on retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver votre chronique avec le docteur de la radio, le docteur Serge Raphaël. Votre chronique, c'est bon pour la santé. C'est maintenant sur Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Et c'est l'heure de retrouver C'est bon pour la santé, présenté par le docteur Serge Raphaël, comme tous les jours sur Radio J. Serge, bonjour.
Bonjour Eva.
Vous souhaitiez évoquer ce matin les aliments fermentés, nous apporter quelques informations nouvelles qui confirment l'intérêt de plus en plus affirmé qu'ils ont pour la santé, et vous ferez un focus sur l'un d'entre eux, peu connu du public, mais qui gagnerait probablement à l'être davantage, le kombucha, que vous avez d'ailleurs adopté.
C'est exactement cela. Les aliments fermentés démontrent en effet chaque jour tout leur intérêt pour le bon fonctionnement du microbiote, vous savez, l'ex-flore intestinale, sont donc bons pour la santé. Une étude américaine publiée dans une grande revue scientifique confirme ce fait. Des chercheurs ont suivi pendant 10 semaines 36 personnes réparties en deux groupes, l'un auquel ils ont proposé une alimentation riche en fibres, des fruits et légumes, des graines, des légumineuses, et l'autre un régime à base d'aliments fermentés. Des prises de sang et des examens des selles ont été pratiqués avant, pendant et à la fin de cette période probatoire. Les résultats sont convaincants. Le régime fermenté affirme sa supériorité en réduisant les marqueurs de l'inflammation, responsable, on le sait maintenant, de nombreuses maladies ou pathologies. Et surtout, il favorise un élément essentiel de la santé, la présence en grand nombre et la diversité des bactéries, virus, parasites et autres champignons non pathogènes qui compose le microbiote intestinal.
Alors, pouvez-vous nous expliquer, Serge, le principe de la fermentation ?
C'est le premier mode de conservation inventé par l'homme. Il consiste à transformer les sucres naturellement présents dans une grande variété d'aliments en acide acétique, ce qui donne le vinaigre, en acide lactique, j'y reviens plus loin, ou en alcool pour obtenir bière, cidre, vin. Ceci grâce aux micro-organismes, les bactéries, des levures, des moisissures, présentes dans les aliments ou ajoutées lors de leur fabrication, comme c'est le cas par exemple pour le camembert, le roquefort, le yaourt. La fermentation lactique tue les bactéries pathogènes, responsables entre autres du pourrissement. Elle permet la conservation tout en renforçant les bonnes bactéries dites saprophytes, en améliorant la qualité nutritionnelle de ces aliments et en améliorant leur digestibilité.
Quels aliments fermentés trouve-t-on à présent dans le commerce ?
Les pouvoirs publics, Eva, veillent jalousement aux risques infectieux. La plupart des aliments sont donc pasteurisés par la chaleur. C'est le cas, par exemple, du pain au levain ou du cidre, qui sont certes fermentés, mais ne contiennent plus de micro-organismes vivants. Mais les aliments fermentés qui les conservent sont et seront de plus en plus nombreux, puisque leur intérêt santé est à présent démontré, ce qui entraîne une demande croissante. Or, citons les plus en vogue actuellement, le chou fermenté, la choucroute crue, hein, mais pas cuite. Le kéfir de lait, hein, sont des graines de kéfir ajoutées dans du lait qui lui donnent un goût aigre et acidulé. Et maintenant, le kéfir de fruits. Le kimchi, qui est un plat coréen à base de légumes et piments fermentés. Le kombucha, que je développe dans quelques secondes. Le miso, la pâte fermentée de soja. Les pickles, carottes, citrons, concombres, navets, oignons, radis, bien sûr. Le tempeh, plat indonésien à base de pâte de soja ou d'autres grains. Les yaourts, la plupart malheureusement pasteurisés. Et nos fameux cornichons à la russe que nous allions autrefois chercher rue des Rosiers directement dans les tonneaux.
Mais vous, là, vous voulez insister sur le kombucha.
Oui, j'ai découvert cette boisson pétillante, acidulée, fermentée de 7 à 10 jours, et je l'ai intégrée à mon quotidien, deux canettes de 33 ml par semaine. Elle est originaire de Mongolie, fabriquée à base du champignon kombucha, de thé vert et de thé oolong, d'un peu de sucre, de symbiotiques et autres levures. Les propriétés santé de ce thé, considéré jadis comme miraculeux, ont été confirmées par plusieurs études qui ont identifié quelques dizaines de bactéries différentes, représentant près de 200 espèces microbiennes, dont beaucoup sont précieuses pour le tube digestif. Le kombucha contient entre autres à des concentrations doubles de celles du thé, des composés phénoliques aux propriétés antioxydantes dont nous parlons très régulièrement dans cette rubrique santé.
Alors en conclusion, Serge ?
Les aliments fermentés correspondent aux préoccupations écologiques actuelles et au rejet de la malbouffe et l'alimentation transformée ou ultra-transformée. Ils séduisent à juste titre des consommateurs en quête d'authenticité, de qualité, de mieux-être, de santé et aussi de goût. Ils ont apparemment un bel avenir, un boulevard, comme on dit, devant eux.
Merci Serge pour cette chronique, c'est bon pour la santé. Toutes vos chroniques sont d'ailleurs à podcaster sur radioj.fr.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
8h54 minutes sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. L'arrivée du Tour de France est dans quelques heures à Paris. Retour sur deux étapes décisives qui ont façonné le classement général avant le grand final sur les Champs-Élysées. Vendredi, 19e étape entre Albertville et La Plagne. C'était la dernière grande exploration en montagne. Elle a tenu ses promesses malgré un parcours raccourci à 93 km en raison d'une épidémie bovine dans la zone du col des Saisies. Mais le suspense, lui, était bien intact sous une pluie glaciale et sur les pentes impitoyables de la Plagne. 19 km d'ascension, 24 virages, une arrivée à 2000 mètres d'altitude. Le Néerlandais Tymen Arensman de l'équipe Ineos Grenadier a signé dessus un superbe solo, décrochant sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Derrière, le duo des géants, Vingegaard deuxième, Pogacar juste derrière, mais c'est bien Tadej Pogacar qui a conservé le maillot jaune avec une avance de 4 minutes et 24 secondes sur Jonas Vingegaard. Florian Lipovic, encore solitude, reste troisième et premier au classement des jeunes. L'étape 20, le samedi, donc hier, samedi 26 juillet, victoire de Caden Groves à Pontarlier. L'avant-dernière étape du Tour a réservé un scénario inattendu, marqué par la pluie, les chutes et un sprint massif à Pontarlier. Alors qu'on s'attendait à une échappée victorieuse dans le Jura, c'est finalement Caden Groves qui a surgi pour s'imposer au sprint, profitant d'un regroupement général dans les derniers kilomètres. Pas de changement majeur, évidemment, au classement général, hein. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune avant la dernière étape. Groves, lui, signe sa première victoire sur le Tour après plusieurs places d'honneur et s'offre un moment de gloire à la veille de Paris. Aujourd'hui, donc, place à l'étape numéro 21, Mantes-la-Ville, Paris via Montmartre. Et oui, un parcours de 126 km qui innove avant les Champs-Élysées. Les coureurs grimperont la côte de Montmartre, 900 mètres à 9%. Pavé inclus et une première dans l'histoire du Tour. Le peloton traversera Poissy, Boulogne-Biancourt, puis rejoindra le centre de Paris. L'arrivée est prévue sur les Champs aux alentours de 19h30 avec la traditionnelle parade des maillots distinctifs, suivie du sprint final pour les sprinteurs. Arnaud Démare, Binyam et Girmé, Jasper Philipsen, tous viseront la victoire de prestige à Paris et surtout Tadej Pogacar recevra sans grande surprise le trophée du vainqueur du Tour avec son maillot jaune déjà sécurisé. Il sera aussi sacré meilleur grimpeur après 2020. 2021, 2024, voici son quatrième Tour de France qu'il remportera ce soir. Lipovic s'empare du maillot blanc et le maillot vert revient à Mats Pedersen, régulier tout au long de ces trois semaines. Et voilà, alors dans quelques heures, ce sera le temps des sourires, des hommages et des images mythiques au cœur de la capitale, tout à l'heure pour le dénouement final sur les pavés parisiens. Et demain, avec Raphaël Sebag, nous ferons un grand résumé de ce Tour de France. Eh bien voilà, la matinale touche à sa fin. Bonne journée à vous sur Radio J. Restez branchés dans un instant, évidemment. Frédéric Aziza pour les Enfants de la République. Quant à moi, eh bien, avec Eva Soto, on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 6-9 sur Radio J. Et on se quitte. Bonne journée à vous. Merci.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
נדע לי קצת זקן על הצלקות ולמילים שלי התאמתי מנגינות הגיטרה היא זאת שפתרה לי בעיות כמה בעיות, כמה בעיות, כמה רוב הזמן לבד, ארבע עקירות ככה מהצד למדתי איך לזכות אף פעם לא שכחתי מה אני צריך להיות מה צריך להיות, מה צריך להיות, מה צריך להיות
Écoutez Radio J.